France Culture.
Quentin l'a fait.
Alors que le vote du budget 2026 de la Sécurité sociale est aujourd'hui sous tension, le débat politique tourne autour de milliards de déficits et de dates butoirs. Mais derrière ces chiffres, il y a des journées de travail trop longues, des corps usés, le sentiment de ne pas être ni respecté, ni écouté. Alors si beaucoup refusent de travailler plus longtemps, est-ce d'abord parce que leurs conditions de travail sont devenues impossibles à supporter ? Jusqu'à quel point la frustration sociale d'aujourd'hui s'enracine-t-elle d'abord et avant tout dans ce qui se passe au travail, et en quoi le défi du travail recoupe-t-il celui de la démocratie tout entière? Un invité ce soir pour nous éclairer, Bruno Palier, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes directeur de recherche au CNRS, au Centre d'études européennes et de politique comparée de Sciences Po, et le co-auteur du livre avec Corinne Herrel intitulé « Travailler mieux », c'est au PUF, aux presses universitaires de France. Merci d'être avec nous ce soir dans Questions du soir.
On vient avec la boule au ventre, on vient avec le stress. Il y a un collègue hier après-midi qui a traversé la route, il a failli se faire renverser parce qu'on a la tête dans le guidon, on pense à autre chose, et puis voilà, c'est tout. Ça devient catastrophique.
Ça, c'est quelque chose d'inadmissible. Dans un lieu où on travaille avec l'humain, on doit avoir de l'empathie, de l'accompagnement, de la compréhension et de l'écoute.
En fait, on est des larbins, je pense.
On nous rajoute du boulot, on n'est pas forcément payé à la hauteur de ce qu'on devrait l'être.
Plus d'intimidation, plus d'harcèlement.
J'ai vite compris que c'était qu'un numéro, qu'il n'y avait rien d'humain dedans.
On n'a pas dit non, on a dit on essaye, mais sans les menaces. Et venir pas avec la boule au ventre.
Votre co-autrice, Bruno Palier, s'appelle Christine Herrel et non Corinne Herrel. Je lui adresse mes excuses. Lorsqu'on entend ces Français qui parlent du travail, de leur quotidien au travail, des difficultés qu'ils rencontrent également dans ce quotidien, est-ce que vous voyez un hiatus entre leur façon d'expliquer ce travail, la façon dont ils y sont émergés, et la manière dont nos représentants politiques, nos députés pour ne pas les nommer, parlent du sujet du travail comme politique publique ?
On va pas généraliser, donc pas tous les députés, pas tous les politiques, mais il y a un hiatus évident entre ceux qui pensent que les Français ne travaillent pas assez, qu'ils sont des tirs au flanc, qu'il y a moins d'heures travaillées en France que en Allemagne, ce qui n'est pas vérifié. Hein. La différence, si on veut parler des chiffres, c'est le taux d'emploi des jeunes, combien de jeunes sont en emploi, et le taux d'emploi des seniors, combien de plus de 58 ans sont en emploi. Et là, effectivement, en France, il y en a moins qu'en Allemagne. Par contre, le nombre d'heures travaillées par la population active entre ces deux âges bornes, le taux d'emploi des femmes, etc., sont très élevés en France. Mais moi, ce que je voudrais dire, c'est qu'il n'y a pas de hiatus entre ce que je viens d'entendre et nous, les chiffres que l'on donne, nous, les analyses que l'on fait. Voilà, nous, on parle d'intensification du travail quand ils nous disent qu'il faut faire toujours plus. On parle d'ambiance au travail quand ils parlent de la boule au ventre. On parle de management par les chiffres distants quand il parle de « je ne suis qu'un numéro ». On parle de petit chef autoritaire, nous on parle de verticalité. Donc on met pas forcément les mêmes mots parce qu'on essaie nous de quantifier les choses. Mais là, il n'y a pas de hiatus. Et la problématique, c'est d'arriver à faire rentrer ces descriptions, ces analyses quantifiées, le faire rentrer dans le débat public. Puisque visiblement, c'est bien rentré dans la tête des gens. C'est ce que beaucoup de gens vivent au travail. On essaie de le représenter par des recherches en sciences économiques, sociales, psychologie du travail, etc. Maintenant, il faut le faire admettre dans le débat public. Et là, on a un refus de la part de beaucoup d'employeurs, en fait, de le reconnaître. En tout cas, le MEDEF, qui ne veut pas participer, vous l'avez vu, à la conférence que vient de lancer le ministre du Travail et des Affaires sociales sur le travail, l'emploi et la retraite, qui veut parler des conditions de travail. Le MEDEF refuse de venir. Et puis, il faut aussi contrebalancer ce discours qui viserait à dire que les Français travaillent moins que les autres et sont des tirs au flanc. Moi, je pense que j'avais proposé une formule en 2023. Quand les Français sont allés dans la rue pour dire non à la réforme des retraites, ils ont dit « je ne me vois pas travailler 2 ans de plus dans ces conditions ». C'est ça le problème, c'est les conditions de travail.
Quand on se focalise un instant sur la question des retraites, la réforme des retraites, à quel point est-elle liée par ailleurs à la question, à l'enjeu même de la soutenabilité du travail? C'est une autre chose étrange dans le débat public. On lie relativement peu la question du travail à celle des retraites.
C'est ça qui est très étrange en France, puisque dans beaucoup de pays, quand il s'est agi de dire « il va falloir travailler plus longtemps, la première chose que les Finlandais ont fait, que les Suédois ont fait, que les Allemands ont fait, que beaucoup de pays ont fait, qu'on met toujours en avant comme ayant des âges de retraite plus tardifs, eh bien, ils ont d'abord regardé les conditions de travail. Ils ont d'abord regardé les conditions de travail des seniors, c'est-à-dire travailler sur une amélioration de l'ergonomie. Ils ont aussi regardé les conditions de formation. Est-ce qu'on continue de former les seniors après 55, après 60 ans? Eh bien, oui, dans ces pays-là, non en France. Donc, ils ont d'abord parlé du travail, améliorer les choses. Après, les Allemands, les Suédois ont plus ou moins accepté, en tout cas, ils l'ont mieux accepté qu'en France, l'idée de devoir travailler plus longtemps.
Mais comment est-ce que vous expliquez cette dissociation, le fait qu'on ne parvienne pas à connecter concrètement ces deux sujets qui sont deux sujets purs et simples de politique publique?
Ben parce que il y a une interprétation alternative. L'interprétation alternative de dire le problème, ce sont les conditions de travail, l'organisation du travail, etc. L'alternative, c'est de dire les Français veulent rien foutre. Et donc, c'est une solution de facilité, mais c'est bien ce qu'on entend. C'est ce qu'on entend dire, les Français sont des feignants, donc il va falloir les forcer ou les punir s'ils ne veulent pas travailler plus longtemps. Donc, ils vont avoir moins de retraite s'ils ne veulent pas travailler plus longtemps. Et cette alternative-là, il faut absolument la lever. Je pense que derrière cette solution de facilité, en fait, de dire c'est à cause des Français, en gros, qu'on a un problème, il y a un enjeu qui, là aussi, marque la différence entre la France et les pays que je viens de citer, à savoir qui décide de l'organisation du travail, comment se décident les stratégies des entreprises, comment se décide la façon de produire, la façon d'accueillir du public. Eh bien, en France, les décisions, elles sont concentrées aux mains de quelques dirigeants, tout en haut, et après, c'est censé descendre. Comme dirait Napoléon, l'intendant suivra. Eh bien, ce management distant et vertical, cette prise de décision verticale, c'est pas comme ça qu'on fait. Dans les entreprises allemandes, c'est pas comme ça qu'on fait dans beaucoup d'entreprises, en fait. Je pourrais aussi citer l'Angleterre, je pourrais citer y compris des entreprises d'Italie du Nord. C'est-à-dire qu'on fait avec les salariés, on leur demande leur avis, on essaie de construire ensemble les perspectives pour l'entreprise, pour le service, on essaie de réfléchir ensemble à la meilleure façon d'organiser le travail, de façon un peu académique, on appelle ça des entreprises apprenantes, c'est une façon d'organiser le travail, mais ça veut dire que le pouvoir de décider, il est partagé.
Mais si je retourne la question, est-ce que ça veut dire que si les Allemands travaillent plus longtemps que les Français, si d'autres Européens travaillent plus longtemps que les Français, c'est parce que, notamment, les conditions de travail sont meilleures, c'est parce qu'ils peuvent l'accepter ainsi?
La première chose à dire, c'est que les Allemands travaillent à peine plus longtemps que les Français, c'est un an de plus, hein. Il ne faut pas regarder les âges bornes, etc., c'est un an de plus quand on regarde l'âge effectif de départ à la retraite. Mais oui, c'est parce que les conditions de travail ont été améliorées, parce que les conditions de travail des seniors, l'accès à la formation, et puis parce qu'il y a un engagement des entreprises à garder les seniors. En Finlande, on a mis la pression sur les entreprises qui se débarrassaient des seniors. En France, on continue d'avoir des plans sociaux, on continue d'avoir des conventions, des ruptures conventionnelles, pardon, qui font partir les seniors. Ça, on essaye de mobiliser les entreprises pour garder les seniors. Ça, on n'arrive pas à le faire.
Comment est-ce que vous définissez la qualité, non pas de l'emploi, mais la qualité du travail, Bruno Palier ?
Alors ça, ce qui est intéressant dans notre ouvrage, et c'est la contribution de Christine Herel, c'est de montrer que ça se mesure. La qualité de l'emploi et du travail. Donc la qualité de l'emploi, ça se mesure à le type de qualité de rémunération, le niveau de rémunération. On a entendu quelqu'un tout à l'heure qui disait « je suis pas payé, je me sens pas reconnu dans mon travail quand je regarde ma rémunération ». Donc niveau de rémunération, mais aussi type de contrat. Est-ce qu'on a des contrats plus permanents, ou des contrats courts, ou du temps partiel, etc. Mais il y a d'autres critères qu'il faut regarder aussi pour parler plus de la qualité du travail, c'est-à-dire est-ce qu'on a des horaires compatibles avec une vie personnelle? Est-ce qu'on peut choisir en partie ses horaires? Est-ce qu'on a son mot à dire là-dessus? Il y a une autre, catégorie, c'est les risques professionnels, donc maladies professionnelles, accidents du travail, etc. Donc ça se mesure, hein. Les entreprises fournissent en fait des chiffres là-dessus. Il y a la formation, l'accès à la formation. Est-ce qu'on a des perspectives de carrière ou est-ce qu'on est bloqué dans son emploi? Et finalement, il y a les capacités à être représenté et à participer aux décisions. 6 domaines qui sont mesurables. Et ce que propose Christine Herel, c'est d'en faire un index de qualité du travail, comme les Allemands l'ont fait, comme les Anglais l'ont fait. Et donc, un index qui serait constitué de ces données qui existent, en fait, mais rassemblées et qui serait public. Donc, on pourrait regarder et dire, voilà mon job, je vais mesurer sa qualité, je vais pouvoir voir aussi mon entreprise, comparer et mettre un petit peu la pression à la qualité, c'est quelque chose d'intéressant.
Les travailleurs français déclarent une exposition au risque physique nettement plus élevée que la moyenne européenne, plus 17%, une qualité de l'environnement social de travail fortement dégradée, moins 10%. Alors c'est pas la totalité des 6 indicateurs que vous venez d'expliciter, Bruno Palier, néanmoins, à travers ces 2 indicateurs, on remarque que la qualité du travail en France est dégradée en comparaison d'autres pays européens. Comment est-ce qu'on l'explique, à part un facteur que vous avez déjà mentionné, la dimension très hiérarchique de l'organisation du travail ?
Alors, la première chose à dire, c'est que il faut accorder du crédit à ces chiffres. Et le problème, vous vous rappelez, je vous ai dit, il y a une interprétation alternative. Et cette alternative, elle va vous répondre par rapport à ce que vous avez dit. Je vais me faire le porte-parole de l'alternative. Elle va dire, oui, mais tout ça, c'est déclaratif. Et les Français adorent se plaindre. Donc, en fait, on ne fait pas confiance au sondage parce que les Français adorent se plaindre. Donc ça, c'est aussi la parole qui vise à décrédibiliser ce sentiment de difficulté au travail. Donc, c'est pour ça que moi, je préfère des chiffres objectifs. Par exemple, 1300 accidents mortels au travail ou en conséquence de maladies professionnelles, ça c'est indéniable, c'est des chiffres fournis par la France qui sont à comparer avec les chiffres européens et c'est vraiment entre un tiers et deux fois plus que les chiffres de nos voisins auxquels on a l'habitude de se comparer. Même chose pour l'augmentation du nombre de jours d'arrêt maladie. Vous savez que le gouvernement réagit en disant tout ça c'est de la fraude, tout ça c'est de la fainéantise. Moi j'ai discuté avec la direction de la Sécurité sociale, ils regardent concrètement quelles sont les pathologies à l'origine de cette augmentation du nombre de jours d'arrêt maladie, ce sont les TMS, c'est-à-dire les troubles musculo-squelettiques, qui sont les pathologies issues de mauvaises conditions de travail. Porter des charges lourdes, avoir des gestes répétitifs, être exposé à un certain nombre de produits dangereux, etc.
La pénibilité du travail.
La pénibilité du travail. Alors, vous me dites, mais comment, pourquoi il y en a plus en France qu'ailleurs ? Alors, vous avez parlé du management, mais il y a une raison très forte qui est qu'en France, on sous-traite plus qu'ailleurs. C'est-à-dire que vous avez beaucoup plus d'entreprises qui prennent des ordres auprès d'entreprises donneurs d'ordres. Et qu'est-ce qu'on voit ? Ce que les recherches montrent sur la sous-traitance, c'est qu'en fait, les entreprises donneuses d'ordres préfèrent sous-traiter les emplois pénibles pour s'en laver les mains, si vous voulez, et pour pouvoir aussi montrer un beau bilan. Bah, vous voyez, moi, j'ai pas d'accident du travail. Bah non, parce que j'ai demandé à d'autres entreprises de faire ce qu'il y a de plus dangereux. C'était bien connu, par exemple, la sécurité EDF. Pendant longtemps, c'était sous-traité. Donc, il n'y avait pas de salariés d'EDF qui rentraient dans les réacteurs nucléaires. Ça a un peu changé, mais ça, c'est un exemple. Mais sur les chantiers, typiquement, le premier va donner des ordres à d'autres qui vont, pour faire des économies, mettre en danger plus fort les salariés. Le chiffre, il est simple. En France, 25% de salariés travaillent dans une entreprise preneuse d'ordre, donc qui est en sous-traitance. La moyenne européenne, c'est 17%. Donc vous voyez, il y a en gros deux fois plus de difficultés, d'accidents du travail, de maladies professionnelles et de pénibilité dans la sous-traitance. Donc vous voyez, ça, c'est une des façons de comprendre comment on s'est débarrassé le problème un peu plus en France qu'ailleurs.
Autre point passionnant dans votre livre que vous co-signez avec Christine Hérel, Bruno Palier, la définition du sens au travail. C'est une expression que l'on emploie énormément en particulier ces dernières années. Vous la fondez sur un triptyque, l'utilité sociale, la cohérence éthique, la capacité d'agir. Expliquez-nous ces trois points d'abord et ensuite comment se mesure le sens au travail, si on pouvait le mesurer.
Alors oui, on peut le mesurer, ça c'est les travaux qu'ont menés notamment Thomas Coutreau et Coralie Pérez, dans un livre qui s'appelle « Redonner du sens au travail » et qui ont écrit un chapitre à la fois dans notre ouvrage précédent qui s'appelait « Que c'est ton travail » et dans ce qui faisait les constats et dans cet ouvrage qui s'appelle « Travailler mieux » où là on fait les propositions. Et donc Thomas et Coralie montrent qu'on peut mesurer le sens au travail et surtout la perte de sens au travail.
On redonne donc, ce triptyque, l'utilité sociale, la cohérence éthique, la capacité d'agir.
Donc l'utilité sociale, c'est est-ce que j'ai l'impression que mon job au sein de l'entreprise sert à quelque chose et est-ce que j'ai l'impression que mon entreprise ou mon service public sert à quelque chose. La cohérence éthique, c'est est-ce que ce qu'on me demande de faire est en cohérence avec mes valeurs, et la capacité d'agir, c'est est-ce qu'on m'a demandé mon avis et est-ce qu'on a tenu compte de mon avis. Ça, c'est les trois choses. Moi, je rajouterais une quatrième dimension, c'est je n'ai pas de doute sur l'utilité sociale, il n'y a pas de problème de cohérence éthique entre mon job et mes propres valeurs, mais on ne me donne pas les moyens de bien faire mon travail. Et là, il y a aussi une perte de sens. Là, il y a aussi la boule au ventre. Là, il y a aussi du burn-out ou bien des gens qui s'en vont. C'est typique, par exemple, des infirmières dans les hôpitaux. Donc, pas de souci sur la question de l'utilité sociale, pas de souci sur la cohérence éthique. Par contre, les conditions de travail font que je me sens en incapacité de bien faire mon travail et donc risque de maltraitance, risque de ne pas apporter ce qu'il convient aux patients. Et là, une crise de sens aussi.
Est-ce pour cela que vous voulez collectivement dans cet ouvrage instaurer notamment un droit d'avoir son mot à dire au travail ? Est-ce que c'est là la fonction première, c'est-à-dire participer à donner du sens et de la reconnaissance ?
Alors, c'est une des dimensions fondamentales, donc là aussi encore proposée par Thomas Coutreau et Coralie Pérez, c'est l'idée qu'en France, on n'a pas institutionnalisé cette pratique qui est très courante dans les entreprises apprenantes, qui est très courante dans beaucoup de pays, à savoir, avant de valider l'assignation de tâches, la façon dont on vous dit ce qu'il faut faire, eh bien, d'abord, on vous demande votre avis. On vous demande notre avis. À votre avis, comment il faut organiser les choses pour produire? Comment il faut organiser l'accueil du public? Comment il faut organiser là où on place la visseuse sur une chaîne, des choses comme ça?
Mais les décideurs parlent pas aux salariés en France.
Non,
on a le sentiment que l'un et l'autre sont absolument coupés, qui vivent pas dans le même monde.
Ben oui. Parce que on a un chapitre dans Que sait-on du travail qui s'appelle les planeurs, c'est-à-dire ceux qui planifient le travail des autres. À peu près la moitié, donc c'est des cadres, la moitié d'entre eux ils travaillent dans des boîtes de consulting, donc ils sont pas à l'œuvre. Et ce qu'a montré Olivier Gauthier dans un chapitre de Que sait-on du travail, c'est que ceux qui décident du travail des autres, ils travaillent à un endroit géographiquement distant et distinct de l'endroit de la production. Donc le travail est prescrit par des gens qui ne vivent pas là où le travail réel est produit, est effectué. Donc non, ils ne connaissent pas. Il y a cette distance mesurée géographiquement, et donc il n'y a pas d'écoute, il n'y a pas de prise en compte des réalités du terrain, et pas d'écoute du retour non plus. Et c'est pour ça qu'on souhaite, que Thomas et Coralie proposent, d'instituer ce moment de retour, voire même de consultation. On peut penser à d'autres choses. Vous savez, toutes les entreprises doivent élaborer un document qui évalue les risques pour essayer de faire de la prévention. Eh bien, ce document, qui s'appelle le DUERP, on pourrait très bien le faire avec les salariés, et pas seulement le DRH qui le fasse dans son coin. Mais ça, c'est des habitudes que l'on n'a pas en France, parce qu'en France, on croit que décider, avoir du pouvoir, c'est décider tout seul et être capable d'imposer ses décisions aux autres. Ça, c'est la figure ultime, vénérée, de celui qui a du pouvoir, celui qui est puissant. C'est Louis XIV, Napoléon, Charles de Gaulle, Jupiter. Vous voyez, je décide tout seul et je suis tellement fort que j'impose ça à tous les autres. Et ce fantasme de ce pouvoir personnel qui impose aux autres est un fantasme aussi des dirigeants d'entreprise. Il est absolument délétère sur à la fois les conditions de travail, mais aussi l'efficacité de l'entreprise. Nous, ce qu'on essaye de dire, c'est que, regardez les conséquences. Les conséquences, c'est le turnover. Les gens, ils ne restent pas dans ces conditions-là. Regardez les conséquences, c'est l'absentéisme. Les gens, ils en tombent malades. Regardez les conséquences, c'est des accidents du travail. Donc, ça coûte cher à la boîte aussi.
Autre point passionnant de votre livre intitulé « Travailler mieux aux presses universitaires de France », Bruno Palier, au sujet du manque de reconnaissance. Vous écrivez « Parmi les métiers globalement défavorisés, on relève nombre de professions essentielles, aide à domicile, agent de propreté, conducteur et conductrice, caissière, ouvrier de la manutention, du bâtiment, salariés agricoles. Ces métiers représentent 32% de l'emploi en 2021. C'est colossal. »
C'est colossal et c'est vraiment le grand paradoxe. C'est-à-dire que si on appelle ces métiers des métiers essentiels, c'est parce qu'on les a appelés comme ça pendant les confinements, à la période de la crise du Covid. Et donc ces personnes qui occupent un métier essentiel, ce sont des personnes qui ont dû sortir de chez elles pour aller travailler. Travailler à la sécurité, à la santé, aux soins aux autres, dans les EHPAD, à la logistique, hein, livrée, etc. Donc c'est des gens qui se sont mis en danger et dont on a pu mesurer que si elles ne travaillaient pas, tout s'effondrait. C'est ça que ça veut dire essentiel. Hein. Donc ces gens-là, ces femmes, beaucoup, ont pris conscience de l'importance de leur travail, qui était souvent invisible, et se sentent aujourd'hui pas reconnues parce que ce sont les personnes, nous donnons les chiffres, hein. Christine Herel notamment a fait beaucoup de travaux là-dessus, les chiffres c'est qu'en moyenne, ces métiers-là gagnent 20% de moins que la moyenne des rémunérations en France. En moyenne, ces emplois sont beaucoup plus à temps partiel, donc ça fait des très faibles rémunérations, sur des horaires décalés. En moyenne, les pénibilités sont plus fortes, c'est-à-dire le taux de TMS dont je parlais tout à l'heure, le trouble musculo-squelettique, sont plus élevés. Les risques psychosociaux sont plus élevés aussi. Donc on a des difficultés plus grandes, une moindre rémunération et en même temps, on les a applaudis à 20h tous les soirs pendant les confinements. Ça, ça crée vraiment une dissonance. Vous voyez, c'est une dissonance dans votre vie personnelle, mais c'est une dissonance politique aussi. Quelle est cette société qui n'est pas capable de me reconnaître ni dans ma rémunération, ni dans mes conditions de travail et qui, au contraire, me dit « arrête de te plaindre, t'es feignant, il faut travailler 2 ans de plus ».
Pour tirer le fil, quel lien faites-vous entre la qualité du travail et l'état de notre démocratie ? Est-ce que cette qualité dégradée du travail que vous décrivez suscite colère, angoisse, frustration sociale qui se traduit politiquement ?
Oui, moi je pense que ce qu'on peut mesurer dans l'entreprise et vos petites micro-trottoirs le montrent bien, c'est le sentiment de ne pas être reconnu. Par la rémunération, par de meilleures conditions de travail, par aussi une reconnaissance collective, et de ne pas être écouté. C'est-à-dire, j'ai des choses à dire sur mon travail, soit j'en suis fier, soit j'aimerais pouvoir l'améliorer, etc. Et donc, ni entendu, ni écouté. Ça, c'est le sentiment de frustration de beaucoup de salariés au boulot. Ça explique la peur au ventre, ça explique les ressentiments vis-à-vis du chef, vis-à-vis de ceux qui décident là-haut, etc. Mais est-ce que vous ne trouvez pas que ne pas être écouté et ne pas être reconnu, c'est aussi le sentiment de millions de personnes qui ont manifesté contre la réforme des retraites, de personnes qui votent et qui n'ont pas l'impression que le gouvernement correspond à ce pourquoi ils ont voté, l'impression qu'on ne parle pas de leur vie, de leurs conditions de vie, de leurs conditions de travail dans le débat public, donc ils ne se sentent pas ni écoutés ni reconnus dans le débat public. Oui, il y a une analogie à faire, et ça crée du ressentiment, et ça débouche soit sur de l'abstention, soit sur du vote pour ceux qu'on n'a pas encore essayé, qui prétendent en plus représenter ceux qui travaillent dur.
Mais c'est le problème, pardonnez-moi Bruno Palier, c'est le problème de la démocratie en général, ou c'est le problème d'une démocratie sociale et d'une démocratie au travail qui ne fonctionne pas par ailleurs?
Ben c'est les deux. C'est-à-dire qu'on a démantelé progressivement les instruments de la démocratie sociale, aussi bien dans la gestion de la sécurité sociale, dans la capacité de négociation collective nationale et de branche au profit de la négociation collective d'entreprise qui se fait dans des conditions de pouvoir très différentes. On a démantelé tout ça. Et d'autre part, on voit un affaissement de la capacité de nos campagnes électorales, de nos élus à représenter. C'est-à-dire à montrer qu'ils savent écouter et entendre ce que disent les citoyens. Il y a clairement une relation entre les deux. Il n'y a pas que ça, bien sûr, il y a d'autres problèmes, mais si on améliorait les conditions de travail, si le personnel politique se saisissait de ces questions pour faire en sorte qu'on améliore les choses, alors peut-être on contribuerait à un regain de sentiment d'être écouté et reconnu.
Comment est-ce qu'on améliore la qualité de l'emploi, la qualité du travail? Lorsqu'on vous écoute, on a l'impression que le phénomène est éminemment structurel. Lorsque vous parlez des entreprises qui sont majoritairement, ou en tout cas pour beaucoup, des prestataires, lorsque vous évoquez une culture du management aussi, comment est-ce que la politique publique, là aussi, peut intervenir sur ces domaines ?
Alors, je pense qu'il est essentiel de dire que la politique publique, elle doit d'abord être là pour s'assurer qu'il y a de la négociation et que les salariés sont bien représentés à tous les niveaux. Et
donc faire vivre la démocratie sociale.
Faire vivre la démocratie sociale. C'est pas se substituer à elle, c'est faire vivre. Et donc, un certain nombre des propositions que nous faisons, qu'on va retrouver aussi sur le site de la Vie des Idées, autour de Travailler Mieux, visent à ça, c'est-à-dire légiférer pour qu'on retrouve une capacité de négociation. Par exemple, c'est ce droit à avoir son mot à dire, c'est instituer un moment de prise de parole, de débat. C'est pas dire ce qu'il faut faire, c'est instituer ce moment de prise de parole. D'une façon, une autre façon de dire qu'on peut y arriver, c'est de faire en sorte que les dirigeants d'entreprise, notamment les financiers, réalisent combien ils perdent d'argent à maltraiter le travail.
Et donc, c'est de leur créer aussi des incitations économiques.
Mais oui, si c'est, y a que ça qu'ils comprennent, faut jouer ce jeu-là aussi. C'est les propositions de Laurent Capelletti qui, lui, a calculé qu'en gros, les défaillances du management que je viens de décrire, elles coûtent 20 000 euros par salarié en moyenne. En termes d'absentéisme, de turnover, d'accidents, de maladies professionnelles. Et donc, mais simplement, c'est pas visible, c'est pas chiffré. Et donc, il faut trouver des modalités et rendre indispensable de savoir calculer cela, par exemple.
En une minute, le salaire vital, De quoi s'agit-il ?
Alors, le salaire vital, c'est assez simple à calculer. C'est si vous additionnez toutes les dépenses contraintes, donc en termes de loyer, en termes de nourriture, en termes de transport, en termes d'énergie, et vous arrivez à une somme actuelle qui est de plus que 1600 euros. Évidemment net, hein, puisque c'est ce que vous devez dépenser. Quand vous savez que le SMIC net à temps plein, il est à 1400 euros, vous voyez que beaucoup de gens ne sont pas en capacité de faire face à l'ensemble de leurs dépenses contraintes, donc n'ont pas un salaire vital. Et nous, on pense que ça doit aussi servir de référence pour les négociations collectives, pour la fixation des rémunérations.
Merci beaucoup, Bruno Palier, directeur de recherche du CNRS au Centre d'études européennes et de politique comparée à Sciences Po. Votre livre intitulé « Travailler mieux » apparu en septembre aux presses universitaires de France. Il est co-écrit, co-signé avec Christine Herel. Et merci également à celles et ceux qui ont préparé et pensé cette émission. À mes côtés, Rodi Eken, Bruno Barada, Bertie Bourdon, à la réalisation, François Richet.